Chapitre 37. Opération Damoclès. Poul n'eut guère de contact avec l'équipe chargée d'assembler l'arme que tout le monde espérait ne voir jamais utilisée. L'opération, baptisée Damoclès, était si spécialisée que sa contribution n'aurait guère été utile. En outre, en découvrant le groupe d'intervention, il se dit que certains d'entre eux ne semblaient pas appartenir à l'espèce humaine. D'ailleurs, l'un des membres les plus importants sortait d'un asile d'aliénés. Poul avait été surpris d'apprendre que ce genre d'endroit existait encore. Et Madame O'Connor laissait parfois entendre que deux autres, au moins, devraient bien l'y rejoindre.
« Avez-vous déjà entendu parler de l'opération Énigme ? »
demanda-t-elle un jour à Poul, après une réunion particulièrement pénible. Il secoua la tête en signe de dénégation.
« C'est étonnant, » reprit-elle. « Elle remonte à quelques dizaines d'années avant votre naissance. » « Je suis tombé dessus en faisant des recherches pour l'opération Damoclès. Le problème, à l'époque, se présentait de façon très similaire à celui d'aujourd'hui. Au cours d'une de vos guerres, on a rassemblé, dans le plus grand secret, un groupe de brillants mathématiciens qui étaient chargés de déchiffrer un code de l'ennemi. Et c'est comme ça, incidemment, qu'ils ont mis au point les premiers véritables ordinateurs. Et à ce propos, on raconte une histoire charmante, j'espère qu'elle est vraie, qui me rappelle notre petite équipe. Un jour, après une visite d'inspection, le premier ministre de l'époque a déclaré au directeur de l'opération Énigme « Lorsque je vous avais dit de ne négliger aucune piste pour recruter vos hommes, « je ne pensais pas que vous prendriez à ce point mes propos au pied de la lettre. »
Apparemment, on n'avait négligé aucune piste pour l'opération Damoclès. Pourtant, comme personne ne savait si le délai se comptait en jours, en semaines ou en années, il fut difficile au début de créer au sein de l'équipe un véritable sens de l'urgence. La nécessité du secret entraîna également des problèmes. Comme il n'y avait aucune raison d'alerter l'ensemble du système solaire, seules 50 personnes étaient au courant de l'opération. Mais c'était celle qui comptait, capable de mobiliser les forces suffisantes et qui, seule, pouvait autoriser l'ouverture de la chambre forte du Mont Picot, cela pour la première fois depuis 500 ans. Lorsque Hallmann rapporta que le monolithe recevait des messages avec une fréquence accrue, le doute ne fut plus permis. Quelque chose se préparait. Malgré les programmes anti-insomnie de sa coiffe de pensée, Poul ne fut pas le seul à mal dormir ces jours-là. Et souvent, avant de trouver enfin le sommeil, il se demandait s'il se réveillerait le lendemain matin. Finalement, tous les composants de l'arme furent assemblés, une arme invisible, immatérielle et inimaginable pour les hommes de guerre des temps passés. Rien de plus inoffensif semblait-il que cette tablette de mémoire à téraoctets, parfaitement standard et utilisée chaque jour avec des millions de coiffes de pensée. Mais le fait qu'elle était enchâssée dans un bloc massif de matière cristalline où s'entrecroisaient des bandes métalliques indiquait qu'il s'agissait là d'un objet tout à fait extraordinaire. Poul la reçut avec réticence. Et il se demanda si l'homme chargé de livrer le cœur de la bombe d'Hiroshima jusqu'à la base aérienne du Pacifique avait éprouvé des sentiments identiques. Car si toute leur peur se révélait justifiée, alors sa responsabilité serait plus grande encore. D'ailleurs, il n'était pas certain de mener à bien ne fût-ce que la première partie de sa mission. Aucun circuit de communication n'étant absolument sûr, Hallmann n'avait pas été informé de l'opération Damoclès. Poul s'en chargerait dès son arrivée sur Ganymède. Son seul espoir dès lors était que Hallmann fût disposé à jouer le rôle de cheval de Troie, avec le risque pour lui d'être détruit au cours du processus.